Philippe 27 avril 83 rime.
Nous allons continuer l'article. Après avoir vu, est-ce que dans la foi, il peut y avoir quelque chose de faux ? Saint Thomas s'était posé, l'objet de la foi peut-il être quelque chose que l'on voit ? Et on avait vu comment Saint Thomas répondait, comment le point de vue de la foi, à la différence de l'évidence, de ce qui était une évidence immédiate ou une évidence médiate. Et puis que la foi, de fait, impliquait un élément étranger à l'évidence de l'objet qui venait du côté du sujet. Enfin, c'est ça qu'il faut bien saisir. On le reverra du reste progressivement dès qu'on analyse un peu le problème de la foi. Mais c'est intéressant de voir comment saint Thomas fait intervenir ici cette analogie du point de vue de l'opinion et de la foi. C'est ça, je crois, qui est le plus intéressant. Article 5, l'objet de la foi peut-il être quelque chose que l'on sait ? Saint Grégoire affirme que les choses qui se voient ne donnent pas la foi, mais l'évidence. C'est dire qu'en matière de foi, on n'a pas l'évidence. Mais dans ce qu'on sait, il y a de l'évidence. Par conséquent, dans ce qui est matière de science, il n'y a pas place pour la foi. Vous voyez, ça continue exactement l'argumentation de l'article précédent. Alors c'est la ligne, c'est ça qui est intéressant à saisir, c'est le point de vue de l'évidence et de la certitude. Vous allez voir progressivement qu'au fond c'est ça que saint Thomas veut mettre très en lumière. La ligne à l'objet peut-être source, peut-être porteur d'évidence. Un objet peut être porteur d'évidence. Un objet est évident ou n'est pas évident. Un objet est immédiatement évident ou médiatement évident. Et puis, il y a le point de vue de la certitude. Alors, la foi va impliquer une certitude, elle va impliquer une non-évidence. C'est ça qui va saisir. Alors comment, de fait, la foi qui va impliquer une adhésion absolument certaine, va être une adhésion à quelque chose qui n'est pas évident. Alors que d'habitude, c'est l'évidence qui est source d'adhésion. C'est quand une chose est évidente qu'on y adhère. Vous n'adhérez pas à quelque chose qui n'est pas évident. Vous dites, ah non, je ne comprends rien du tout à ce que vous dites. Ce n'est pas du tout évident pour moi. Vous n'adhérez pas du tout. Et vous y adhérez si on vous dit écoutez. Hein. Vous avez confiance, attendez un tout petit peu. Dans un mois, vous aurez l'évidence. Alors vous acceptez par un témoignage, par quelque chose qui est autre chose. Ce n'est plus l'évidence, c'est alors un témoin. Dès qu'il y a foi, il y a toujours témoignage. C'est là qu'il faut toujours se dire, hein. Foi appelle témoignage. Alors vous vous appuyez, l'adhésion s'appuie sur le témoignage, et vous adhérez sans aucune évidence. Ça, c'est un type de connaissance très particulier. C'est le type de connaissance le plus faible. Parce que la vraie connaissance, c'est le dialogue entre le sujet et l'objet. Et on adhère à un objet quand il est évident et qu'il nous convainc. Alors on y adhère pleinement. Alors on est en face d'une connaissance claire. La connaissance claire de Descartes, ce qui donne une certitude absolue. Tandis qu'au contraire, quand ce n'est pas évident, vous n'y adhérez pas. Sauf si un témoin. Rappelez n'importe quelle discussion que vous faites en récréation. Devant quelqu'un qui ne comprend rien du tout, parce que vous dites une argumentation qui n'est peut-être pas claire, mais aussi peut-être parce qu'il ne comprend pas, comme vous. Ça peut arriver. Vous pouvez donner une argumentation d'une évidence absolue, certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Ça dépend de la capacité de certains, de chacun. Alors, pour certains, c'est évident, pour d'autres, c'est pas évident. Et alors, quand vous êtes en face de quelqu'un qui lui dit « Ah, c'est pas évident du tout ce que tu dis », que vous n'avez plus d'autre argument, plus aucun argument, qu'est-ce que vous dites ? Crois au moins ce que je te dis. Et c'est ce que vous dites spontanément. Crois au moins ce que je te dis. Pour moi, c'est évident. Voilà, si tu es mon ami, si tu n'es pas mon ami, hein, fais ce que tu veux, ça m'est égal. Mais si tu es mon ami, alors crois au moins ce que je te dis. Alors appuie-toi sur mon témoignage. Alors on s'appuie sur le témoignage de l'ami. Ou le témoignage du maître. Le maître dit ça, ça doit être intelligent, puisque le maître le dit. Donc j'y crois. J'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas d'importance. C'est comme les personnes qui assistent à un très beau serment. C'est extraordinaire ce serment, c'est magnifique. J'ai rien compris. Mais c'est très très beau. Puis c'est tel père, alors c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voyez, c'est nécessairement magnifique, puisque c'est tel père. Témoignage. Côté affectif. Voyez, ce qu'une épouse disait à propos de... Elle assistait au cours de philosophie de son époux. Et ce qui est le plus beau, c'est sa voix. C'est très très significatif. C'est une personne intelligente qui dit ça. Mais elle aimait son époux encore plus que son intelligence. Notre époux, c'est ça. C'est merveilleux, c'est court, c'est extraordinaire. Et puis, une voix. Bon, alors, voyons. L'opposition, la différence qui existe entre la science et la foi. C'est pour que vous compreniez, je crois qu'il y a diverses manières d'adhérer. L'adhésion est multiple, elle n'est pas de simple. L'adhésion, question de jugement, c'est pas une question d'appréhension. Et alors là, on retrouve toujours le lien, fondamentalement, on va retrouver le lien entre le domaine de l'appréhension et le domaine du jugement. Bientôt, la bibliothèque aura un document supplémentaire, n'est-ce pas, sur l'appréhension et le jugement. Alors, à ce moment-là, vous comprendrez tout de suite le point de vue de ce que représente le point de vue du point de vue de la foi. Quoi. Normalement, appréhension et jugement, il y a une harmonie entre les deux. Il peut très bien se faire qu'il y a une distance entre les deux. Très curieux, ça. Et ça, c'est intéressant pour analyser l'acte de foi. Ça va être très important de saisir ça. Entre le point de vue de l'appréhension, normalement, le jugement n'est pas uniquement hein, une somme d'appréhension. Une. Et simplement deux. Appréhension, c'est simple. Puis jugement, c'est deux. Alors, on additionne. Non. Il y a quelque chose de nouveau. Mais cependant, il y a une harmonie entre les deux. Il y a une harmonie entre les deux. Dans un jugement habituel, il y a une harmonie. Eh bien, on va voir ici, dans l'adhésion de foi, un dépassement de l'adhésion par rapport à l'appréhension. Et c'est ce qui va rendre l'acte de foi si curieux, au plan proprement critique, si vous voulez. Vous allez voir une désharmonie, il y a une désharmonie entre les deux. On va pouvoir comprendre que du côté appréhension, c'est-à-dire du côté concept, aucun concept nouveau, et une adhésion nouvelle, et un jugement nouveau. Normalement, s'il n'y a pas de nouveau concept, il n'y a pas de jugement nouveau. Normalement, parce qu'il y a une harmonie entre les deux. Je ne dis pas qu'il y a... Je dis une harmonie, hein, je ne dis pas simplement l'addition, mais l'harmonie entre les deux. Alors, il faut essayer de saisir tout ça. C'est pour ça que c'est très important, cette analyse que fait saint Thomas. Elle est très unique, vous savez, cette analyse. Parce que si vous regardez les modernes, vous ne verrez plus du tout cette analyse telle que saint Thomas la donne comme celle-là. Elle est très belle quand on étudie la foi et qu'on essaie de voir l'objet de foi tel que saint Thomas nous le donne. C'est très très beau, on voit très bien. Ben, nous on suit saint Thomas, alors c'est facile, hein, mais il fallait découvrir ça.
fallait essayer de faire montrer où est le mystère de la foi. C'est ça le théologien. Où est le mystère de la foi? Où est-ce qu'il gît le mystère de la foi? Alors on prend toutes les comparaisons. On prend toutes les comparaisons pour essayer de bien saisir où il y a le mystère et où il y a quelque chose, où il y a nécessairement une intervention de Dieu. Vous ne pouvez pas expliquer par votre critique votre adhésion de foi. Votre adhésion de foi vous transcende, autrement dit. Elle vous transcende. Et donc elle vous bouleverse, intellectuellement parlant. Il n'y a rien de plus bouleversant au point de vue de mon intelligence. Si je suis lucide à mon acte d'intelligence, il n'y a rien de plus bouleversant qu'un acte que l'adhésion de foi. C'est bouleversant. Surtout si je suis philosophe. Je m'aperçois que je me mets dans la situation, j'allais dire la plus petite, la plus imparfaite de l'intelligence, pour atteindre ce qu'il y a de plus élevé. C'est ça qui est si étonnant. La situation la plus imparfaite de la connaissance, c'est lorsque justement vous adhérez sur le témoignage d'un autre. Il y a un autre qui a vu. Il y a un cosmonaute qui a été dans la Lune et qui me dit que ça se passe comme ça. Je le crois parce qu'il a, lui, l'expérience. Moi, j'en ai pas l'expérience. Je vois ça de très loin. Tandis que lui, il l'a vu. Et je crois spontanément à ce qu'il me dit parce que lui, il l'a vu. Mais ce type de connaissance est une connaissance d'attente. Un jour, je serai cosmonaute, et puis je serai dans la Lune, et je pourrai vérifier ce qui a été dit. Je pourrai vérifier exactement que ce qui m'a été dit est bien comme ça, et c'est pour ça que je l'accepte. Autrement, à quoi ça me sert d'accepter? Ça n'avance rien du tout. C'est une bonne opinion, c'est intéressant, une bonne histoire, c'est très intéressant, mais moi je ne vérifie pas. La connaissance de foi est une connaissance d'attente. C'est ce qui légitime la foi. Si la foi ne se terminait pas dans une vision, ce serait impossible. C'est une connaissance d'attente. C'est ça qui est très 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 beau à voir. C'est ça que c'est la connaissance la plus fragile, la plus débile. C'est la connaissance débile, la connaissance de foi. Débile au sens philosophique, hein. Bien, pas psychologique, mais débile au sens philosophique, comme quand on dit que la relation est l'être le plus débile. Donc, eh bien, c'est vrai que l'acte de foi, c'est la connaissance la plus débile, parce que l'acte de foi tout court, c'est une connaissance d'attente où il n'y a rien d'évident. Rien d'évident du tout. Et vous adhérez en vous appuyant sur un plus grand que vous. Dieu voit Dieu. Et parce que Dieu voit Dieu, alors j'accepte ce qu'il me dit de lui. Un jour, je le verrai. Vous voyez, les cosmonautes de la foi, c'est très important de comprendre ça, de bien saisir ça. Un jour, moi aussi, je me mets dans la machine, hein, en attendant. Par la foi. Je suis en attente, je me mets dans l'orientation, dans l'orbite. C'est ça, je me mets dans cette orbite que Dieu lui-même se voit et je me mets dans cette ligne-là. Un jour, je verrai. Mais je suis en attente. Alors, c'est à la fois, vous voyez, cette chose très étonnante d'accepter un type de connaissance qui est d'une imperfection très radicale, débile, mais c'est vrai. C'est l'acte de foi, c'est celui qui accepte d'être comme un enfant qui ne connaît pas, qui est au point de départ, l'imperfection. Mais il s'appuie sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui, puisque c'est Dieu lui-même qui vient l'aider à voir clair. C'est pas seulement quelqu'un qui est plus savant, c'est pas seulement quelqu'un qui est plus avancé, non, c'est Dieu lui-même. Alors ça, c'est extraordinaire de voir ça. Que mon intelligence va, de fait, prendre des dimensions divines en acceptant un mode tout petit, un mode très imparfait. Oui, ça va bien avec la philosophie hegélienne, ça. Est-ce qu'il y a de la place pour la foi dans la philosophie hegélienne? Posez-vous la question. Parce que c'est intéressant quand on voit ça, et quand on a été cosmonaute d'Hegel. n'est-ce pas? Alors qu'on a été en essayant d'entrer dans, dans la succession des choses, alors est-ce qu'il y a encore une place pour la foi? C'est très très important de voir que est-ce qu'un système philosophique sur la connaissance laisse la place sur la foi ou pas. Vous voyez que pour pouvoir laisser la place sur la foi, il faut qu'un système philosophique ait une gamme analogique de connaissance qui va assez loin. Hein. Le point de vue de la foi et le point de vue de l'évidence. Le point de vue de la science que nous allons voir. La science, c'est la connaissance parfaite. C'est la connaissance parfaite. Les 12 extrêmes du thème du nous, de l'intelligence. Foi et science parfaite. Alors, si de fait, le développement du nous pris d'une manière dialectique n'a plus de place pour la foi, ben, c'est évident qu'un système philosophique évacue la foi. Dans son développement même, il évacue la foi. Il fait qu'il n'y a plus de place pour la foi. Alors, on va essayer de voir ça. Toute science est possédée au moyen de quelques principes qui sont évidents par eux-mêmes et qui, par conséquent, sont vus. Donc, omniscientia habetur per aliqua principia per se. Alors ça, rappelez-vous ça, c'est de l'aristotélisme pur, c'est des analytiques. Hein. Donc, toute science est par quelques principes connus par eux-mêmes. Et par conséquent, vu. La science présuppose la vision. Pas de science sans vision. Pas de science sans évidence. Elle est à partir des principes qui sont connus par eux-mêmes. Aussi faut-il que tout ce qui est su de quelque manière soit vu. Or, il n'est pas possible. Ça, c'est, encore une fois, c'est les analytiques d'Aristote. Hein. Certainement résume comme ça très rapidement. Or, il n'est pas possible, nous venons de le dire, qu'une chose soit par un même individu crue et vue. Il est donc impossible que par un même individu, une même chose soit sue et crue. Mais, toujours la même chose, c'est que la foi implique la non-évidence. Or, la science implique l'évidence. Persenota. Le persenota, c'est l'évidence. Les principes persenota. Donc la science présuppose l'évidence, donc il y a une opposition entre science et foi. Il faut bien saisir ça. Il y a une opposition entre science et foi. Une opposition interne, une opposition essentielle, substantielle entre science et foi. Il peut arriver cependant que ce qui est vu ou su par quelqu'un soit cru par un autre. Ainsi, ce que nous croyons touchant la très sainte Trinité, nous espérons que nous le verrons selon la parole de l'apôtre. Nous voyons maintenant par un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. Et même cette vision, les anges l'ont déjà, ce qui revient à dire que ce que nous croyons, eux le voient. Ça, il n'y a pas de difficulté. Certains peuvent voir certaines choses que moi je ne vois pas. J'accepte ça. Et ça, c'est l'expérience de tous les jours. Hein. Il y en a qui ont vu telle chose, moi je ne les ai pas vues, mais très bien. Nous avons tous une limite dans notre champ d'action. Pareillement, il peut arriver que ce qui est vu ou su par un homme, même dans l'état présent du voyage, soit cru par un autre qui n'en est pas. Qui n'en a pas démonstrativement l'évidence. Toutefois, ce qui est proposé communément à tous les hommes comme chose qu'on doit croire, c'est ce qui, communément, ne fait pas objet de savoir, objet du savoir. Et ce sont ces points-là qui demeurent purement et simplement sous la foi. Voilà pourquoi la foi et la science n'ont pas le même objet. Très important à comprendre. C'est facile à comprendre une fois qu'on a saisi justement ce qu'on entendait par foi.
La foi, c'est ce qui nous permet, c'est la connaissance qui adhère à une réalité dont je n'ai pas l'évidence. Or, toute science présuppose une évidence, donc, entre foi, science, il y a une opposition. La même personne ne peut pas en même temps croire et voir. Elle ne peut pas en même temps croire et savoir. Il y a une opposition entre les deux. Voyons les objections.
Cela semble possible. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on ignore. C'est qu'on l'ignore. Mais les choses de la foi, on ne les ignore pas. Car l'ignorance en matière de foi se rattache à l'infidélité, selon la parole de l'apôtre. J'ai agi dans l'ignorance n'ayant pas la foi. Ce qui est de foi peut donc être objet de science. Oui, petite objection curieuse. Alors, réponse. Les infidèles sont dans une ignorance des choses de la foi qui tient à ce qu'ils n'ont ni l'évidence ni la science de ce qu'elles sont en elles-mêmes, ni non plus la connaissance de ce qu'elles ont de crédibilité. Mais les fidèles ont, à ce point de vue, une claire connaissance de ces choses. Non qu'ils les sachent d'une manière démonstrative, mais en tant qu'ils voient par la lumière de la foi que ce sont des choses qu'on doit croire. Ah, on va tomber ici dans un problème extrêmement délicat, le problème de la crédibilité et le point de vue de l'objet de la foi. Pas si commode que ça, bien le voir, ça. Et vous voyez, si vous regardez la manière dont saint Thomas répond ici, c'est très intéressant, il y a comme un halo autour du mystère de la foi qui fait que je peux dire ce que, auquel j'adhère est crédible. C'est-à-dire que ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas en opposition avec tout ce... Mais c'est pas plus, hein. Ça ne me donnera pas plus. Et alors, je peux avoir l'évidence de la crédibilité et l'obscurité de l'objet propre de foi. C'est pour ça que, par rapport, je ne dis pas la même réalité, mais par rapport à ce mystère auquel je crois, je peux avoir une certaine crédibilité. Saint Thomas ira jusqu'à dire que le démon a l'évidence, au point de vue crédibilité, que le Christ ne peut pas être un homme et qu'il ne peut être que Dieu. Mais il n'a pas la foi dans le Christ. Mais il a l'évidence qu'il serait complètement idiot de considérer que Jésus n'est qu'un homme. Parce qu'il est intelligent, vous voyez, beaucoup plus que d'autres qui considèrent Jésus uniquement comme un homme. Lui est suffisamment intelligent pour considérer que c'est impossible. Vous voyez, ça c'est le problème de la crédibilité alors. Ah, c'est autre chose, hein. C'est autre chose, hein. On va regarder ça, regarder après. Il y a des liens, forcément. Parce que le don de science va, le don d'intelligence, surtout, et le don de science aussi, mais surtout le don d'intelligence, va donner, au fond, comme un halo de lumière, vous voyez. Ça, le don de, c'est pour ça qu'on dit le don d'intelligence. Qui va porter sur, et qui va donner certitude. On le verra à propos du don, ça. Après, mais j'aime mieux pas trop tout de suite anticiper ça. Deuxième objection. La science s'acquiert par des raisons. Or, les auteurs sacrés apportent des raisons à l'appui de ce qui est de foi. On peut donc avoir la science de ce qui est de foi. Les raisons apportées par les saints pour prouver ce qui est de foi ne sont pas démonstratives. Ce sont seulement des raisons persuasives, montrant que ce qui est proposé dans la foi n'est pas impossible. Non, c'est toutes les argumentations apologétiques ne sont pas démonstratives. La foi n'est pas au terme d'un raisonnement qui montre qu'il est nécessaire de croire. Vous ne pourrez jamais arriver à une démonstration absolue pour dire qu'il est nécessaire de croire. Il y a toujours un acte de liberté dans la foi. Donc la foi n'est pas une conclusion d'une argumentation apologétique. Mais il peut y avoir des persuasions. Dans certains climats, il est plus facile de croire que dans d'autres climats. Il est plus facile de croire dans un climat religieux que dans un climat non religieux. Il est plus facile de croire dans un climat d'une communauté qui vit à l'unisson du mystère de la foi que de croire quand on est seul au milieu d'infidèles, de gens qui sont dans une position athée. Vous voyez, il y a des milieux qui nous aident à croire. Ça, c'est le milieu affectif qui aide pour la persuasion. L'objet de la foi reste le même. Mais pour la crédibilité, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il est toujours bon de transplanter quelqu'un. Très bien, on le transplante dans un milieu, dans un autre, et alors à ce moment-là, la persuasion est différente. On va dire, ah, la foi est subjective, alors mais pas du tout, c'est pas la foi. C'est tout simplement le halo qui est autour. Le halo subjectif. Il est bien évident qu'il y a des choses qu'on a beaucoup plus facilité à croire dans tel ou tel milieu. Quand vous êtes dans un milieu de gens qui vous sont opposés à vous, ben vous êtes toujours méfiant de ce qu'ils vous diront. Et même quand ils vont certifier, pour être sûr, vous pouvez compter sur moi, pas du tout. Je sais que je ne peux pas compter sur vous. Parce que je vous connais. Je sais bien ce que vous êtes. Donc je vous connais, je ne peux pas compter. Alors que d'autres auront des arguments beaucoup plus faibles. Et puis on croira tout de suite. Oui, c'est l'art de l'argumentation par rapport à ce qu'ils disposent. Les raisons apportées par les saints sont pour prouver ce qui est de foi ne sont pas démonstratives. Ce sont seulement par des raisons persuasives montrant que ce qui est proposé dans la foi n'est pas impossible. Ou bien ce sont des raisons qui découlent des principes de la foi, c'est-à-dire, comme Denis en fait la remarque, des autorités mêmes de l'Écriture. Mais les principes de foi ont une valeur probante aux yeux des fidèles, au même titre que les principes naturellement évidents en ont aux yeux de tout le monde. Ça, il faut souligner deux fois. C'est très très important cette analogie. Vous voyez, c'est très étonnant cette analogie. Ex santem principis ita probatur aliquid apud fideles. Sicut etiam ex principis naturaliter notis, probatur aliquid apud omnes. C'est très très important parce que ça fait comprendre tout de suite la seconde analogie. On la trouve, vous voyez, dans la réponse à une seconde objection. Je vous ai toujours dit que pour découvrir vraiment l'argumentation de saint Thomas, il faut dépister les deux analogies qu'il emploie. Eh bien, saint Thomas, quand il parle de la foi, se sert de deux analogies. Première analogie, la foi. La foi humaine. La foi que j'ai dans mon ami. Je t'aime tellement que tu peux tout dire, je croirai ce que tu dis. Ben, c'est bien, c'est ce qu'on disait, que saint Thomas avait une telle confiance dans ses confrères, que même lorsqu'il disait, tiens, il y a un bœuf dans le ciel qui est en train de voler. Il s'est mis à regarder. Pour lui, c'était moins étonnant de voir un bœuf dans le ciel qui volait que de croire que ses frères allaient le tromper. Alors, c'est évident que donc c'est la foi dans l'ordre humain, il y a la foi, on a confiance. Une foi confiance, la foi confiance, première analogie. Deuxième analogie, l'habitude des principes. L'habitude des principes, ce qu'on appelle le nous, ce qu'on appelle l'intelligence. Les deux analogies, la foi est à la fois quelque chose comme l'habitude des principes et elle est à la fois comme la foi-confiance. Elle les deux. Ce sont les deux extrêmes de la vie intellectuelle. Les deux extrêmes de la vie intellectuelle. Les deux extrêmes de la vie intellectuelle, c'est à la fois de chercher l'évidence. Et la plus grande évidence, C'est dans les premiers principes. C'est les premiers principes.
Donc c'est l'excuse des premiers principes. Ça, c'est l'extrême de ma vie intellectuelle. Mon intelligence adhère quasi spontanément au principe de non-contradiction. Et puis, l'autre extrême, c'est la foi-confiance. Eh bien, le mystère de la foi, le mystère de la foi est éclairé par ces deux analogies. Le mystère de la foi s'éclaire par ces deux analogies. Saint Thomas commence par l'analogie foi-confiance, mais l'autre principe, l'autre analogie est la présence, est ici. Oui, vous saisissez. Vous avez dit que, au contraire, dans le livre des sentences, il commence par l'autre analogie en premier lieu. L'habitus est le premier principe. L'habitus est la foi est d'abord lumière. Ici, il met la foi est d'abord confiance. Principe de non-contradiction. Et puis, l'autre extrême, c'est la foi-confiance. Eh bien, le mystère de la foi, le mystère de la foi est éclairé par ces deux analogies. Le mystère de la foi s'éclaire par ces deux analogies. Saint Thomas commence par l'analogie foi-confiance, mais l'autre principe, l'autre analogie est la présence, est ici. Oui, vous le saisissez. Vous avez dit que, au contraire, dans le livre des sentences, il commence par l'autre analogie en premier lieu. L'habitus est le premier principe. L'habitus est la foi est d'abord lumière. Ici, il met la foi est d'abord confiance. Très intéressant de voir ça. Et ça fait deux spiritualités différentes. Hein. La foi est d'abord lumière, la foi est d'abord confiance. Il ne faut surtout pas opposer. Il faut au contraire unir les deux. Elle est lumière parce qu'elle est confiance. Et parce qu'elle est confiance, elle est lumière. Parce qu'avoir confiance en Dieu, c'est d'être illuminé par Dieu. Quand j'ai confiance dans mon ami, je ne suis pas toujours illuminé. Hein? Parce que mon ami n'est pas la vérité. Alors, j'ai beau avoir confiance en lui, je ne suis pas toujours illuminé. J'adhère à ce qu'il me dit, j'accepte ce qu'il me dit, mais je ne suis pas toujours illuminé. Tandis qu'au contraire, si j'ai confiance dans celui qui est la vérité première, je suis illuminé. Ça, c'est beau de voir les deux. Hein. Les deux extrêmes, je vous dis, les deux extrêmes de votre vie intellectuelle. Je reprends. Mais les principes de foi ont une valeur probante aux yeux des fidèles, au même titre, voilà l'analogie, que les principes naturellement évidents en ont une aux yeux de tout le monde. De là vient précisément que la théologie est une science. Nous l'avons marqué au commencement de cet ouvrage. Donc c'était dit plus haut. Si la foi n'était que confiance, il n'y aurait pas de théologie scientifique. Mais parce que la foi est à la fois confiance et en même temps l'humaine fidei, alors à ce moment-là, il peut y avoir un développement de la théologie scientifique. Vous voyez ? Ça, c'est très très intéressant à voir. Ça. C'est très important à saisir. Ces deux analogies. Comme il y a deux analogies pour la grâce, nous l'avons montré. Eh bien, il y a deux analogies pour la foi. Et faites chaque fois que vous lisez Saint Thomas, hein, que vous lisez avec intelligence. Du moins, vous voulez le lire avec intelligence. Cherchez les deux analogies. Et tant que vous ne les avez pas découvertes, vous n'avez pas saisi. Toute l'astuce de Saint Thomas, c'est ça. C'est toujours de lier des deux analogies. Et on comprend très bien. Parce que quand vous n'avez qu'une analogie, vous voyez, vous risquez de rester dans une espèce de vision super psychologique. Oui, je prends que l'analogie confiance, j'aurai Luther. Je prends que l'analogie nous-mêmes, deux fois, j'aurai l'illuminisme.
des extrêmes. Il faut comprendre que c'est un au-delà de la confiance, puisque c'est une confiance divine, et une confiance divine qui va impliquer la lumière. Alors c'est très intéressant de voir, voyez, ce changement dans la position de saint Thomas, ça c'est très intéressant, de voir ce changement dans la position de saint Thomas, le premier saint Thomas, qui est dans la lumière du néoplatonisme, va donner comme première analogie l'Umen Fidei. Et le second saint Thomas, qui est beaucoup plus réaliste, donne comme première analogie la confiance. Mais des deux côtés, saint Thomas n'a jamais exclu hein, les deux. Il a toujours resté les deux. Mais c'est autre chose de mettre comme première analogie, comme première analogie la foi confiance, ou de mettre comme première analogie l'Umen Fidei. Vous avez vraiment là deux aspects. Oui. Ça, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit la réflexion dans saint Thomas qui a été poussée beaucoup plus loin, de voir que ce qui est premier dans la foi, c'est la confiance. C'est l'analogie avec la fidèle, la foi humaine.
Ce qui différencie ces deux analogies, c'est toujours l'être et la vie.
Oui. Toujours un peu. L'être et l'amour, d'une certaine manière, les deux, vous voyez. Vous avez l'être là, et puis vous avez le point de vue de l'amour. La foi confiance implique l'amour. Le premier moment de la foi, c'est la petite affection. C'est la confiance. Parce que vous adhérez à ce que votre ami dit, parce que vous avez confiance et que vous l'aimez. Vous voyez. Et c'est premier. C'est suivre. Oui.
C'est quoi le principe de foi qui parle absolument à la foi?
Mais c'est les principes de foi, c'est tous les principes de foi, c'est tous les articles de foi. Dieu est créateur. Vous voyez, tout ce qui est donné est un article de foi. Les articles de foi sont comme des principes. C'est l'analogue des principes. Et à partir de là, vous pouvez comprendre. Vous voyez, ça, on va voir à propos des articles de foi. Toute proposition de foi est comme un principe. Alors, troisième objection. Ce qui se prouve démonstrativement est su, la démonstration est le syllogisme que l'on sait. Mais il y a des points contenus dans la foi que les philosophes ont prouvé démonstrativement. Par exemple, que Dieu existe, qu'il est unique, et d'autres du même genre. C'est dire que ce qui est de foi peut être aussi de science. Oui. Par exemple, hein, on arrive à une démonstration d'existence de Dieu. Et je crois que Dieu existe. Donc, j'ai les deux en même temps. Démonstrativement, métaphysiquement, je dis Dieu existe. C'est pour moi une évidence métaphysique. Donc, c'est su. Et en même temps, par ma foi, je dis Dieu existe. Quand je suis un peu plus fatigué. Métaphysiquement, je suis fatigué, alors je me prends mon oreiller, puisque voici, c'est pas la peine de chercher tant, j'y crois. Ça y est. Mais je vous avais dit, c'est cette réflexion aussi, après une discussion longue sur l'âme et découverte de l'âme avec des psychanalystes, alors un bon chrétien qui assistait, mais pas la peine de chercher tant, le catéchisme le dit tout de suite. Ah, je dis oui, mais si vous aviez donné le catéchisme au psychanalyse, vous verrez ce qu'il dit, vous diriez. Hein. Il n'adhérerait pas du tout à ça. Il dirait, vous voyez, la foi, le croyant, c'est celui qui ne recherche pas. Alors, réponse de saint Thomas. Il se trouve en effet au nombre des choses qu'on doit croire, des points qui peuvent se prouver démonstrativement. Et à quoi démonstrative probari possunt inter credentia numerum tu. Alors vous voyez, des points, c'est ea. Hein? Alors des points, vous voyez ce que ça veut dire. Des points qui peuvent se prouver démonstrativement. C'est des points, on voit très bien des points de soudure. Hein? Alors ce n'est pas à dire que ces points soient objets de foi. Ce n'est pas à dire que ces points soient objets de foi purement et simplement pour tous, mais comme ils sont le préambule exigé des choses de la foi, il faut qu'au moins ceux qui n'en ont pas la démonstration
les présuppose par le moyen de la foi. Alors vous avez la fameuse expression des preambula fidei qui est ici. Sed quia preexigentur adea que sunt fidei, opportatea saltem perfidem presupponi, ab is qui orum demonstrationem non habent. Vous voyez qu'au fond, c'est très juste, c'est les preambula fidei, saint Thomas ne le dit pas, il dit simplement ce qui est présupposé. Ce qui est présupposé à la foi. Qu'est-ce qui est présupposé à la foi ? C'est que Dieu existe. Si vous avez la démonstration métaphysique que Dieu existe, très bien. Cette démonstration fait que, quand vous dites Dieu existe, ce n'est plus pour vous objet de foi. La première fois où, au point de vue philosophique et métaphysique, vous avez découvert par une argumentation métaphysique que Dieu existe, vous avez eu l'évidence indirecte, pas immédiate, médiate, que Dieu existe. Et par le fait même, c'est plus objet de foi. Si Dieu existe et est objet de foi pour certains, c'est parce que, de fait, ils sont incapables, ou bien qu'ils n'ont pas pu, découvrir par le point de vue métaphysique. Mais ce n'est pas vraiment objet de foi. Est objet de foi ce qui dépasse les capacités de notre intelligence. Et tout ce que notre intelligence peut atteindre, c'est normalement ce qui est pré-exigé à l'objet de foi. Et parce que c'est pré-exigé à l'objet de foi, c'est ce qu'on va appeler les preambula fidei. Et les preambula fidei, c'est une expression qui a un sens très précis. Les preambula fidei, les préambules, bon, les preambula fidei, c'est justement ce qui est pré-exigé à l'adhésion de foi. Et les preambula fidei peuvent être démontrés par la philosophie. Quels sont les preambula fidei ? L'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme. Voilà les deux preambula fidei. Magistraux, les plus importants. C'est très vrai que la foi présuppose ça. Ça présuppose ça. Alors, si vous n'avez pas la démonstration philosophique, la foi remplace la démonstration philosophique. C'est Dieu par sa miséricorde, parce qu'il est père et pas professeur. Si Dieu était professeur, il exigerait de chacun d'avoir la démonstration d'existence de son de sa propre existence et la démonstration de l'immortalité de l'âme avant de donner la foi. Il maintiendrait, oui, un morceau de sucre suspendu. Hein. Tant que tu n'as pas démontré ça, tu ne l'auras pas. Et puis il le donnerait au moment même où on aurait la démonstration. Oui. Tandis que Dieu est père, alors c'est la classe maternelle, ou alors il donne même la foi dans son existence, même si on peut le découvrir par l'intelligence. Il devance. C'est très beau, il dirait ça. Il devance. Et il nous donne une foi à l'égard de vérités que notre intelligence peut découvrir. Mais ça ne veut pas dire que les mêmes réalités sont objets de foi. Ils sont sus. Non. Si elles sont capables d'être sues, elles sont objets de foi accidentellement. En raison du sujet, mais pas objectivement. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire « Ah, je ne vais jamais essayer de démontrer l'existence de Dieu parce que ma foi va diminuer. » Non. Votre foi va être plus elle-même. Tandis que le phénomène de l'extension de la foi dans un domaine qui n'est pas rigoureusement de foi fait que, quelquefois, on perd exactement le sens de la foi. La plupart des gens disent « Ah oui, l'existence de Dieu, mais oui, c'est objet de foi. » Alors ils mettent au même plan l'existence de Dieu et la très sainte Trinité. L'existence de Dieu et le mystère du Christ. Alors c'est pas du tout au même plan, pas du tout au même niveau. Le mystère de la très sainte Trinité, c'est vraiment objet de foi au sens propre.
Le mystère du Christ et du Rédempteur, c'est objet de foi au sens propre. Vous ne pourrez jamais le démontrer. Mais vous pouvez démontrer que Dieu existe, vous pouvez montrer que l'âme est immortelle. Très bien. On terminera la fois prochaine. C'est très important, voyez ça. C'est très important d'arriver à délimiter dans notre propre réflexion le champ propre de la foi. Parce que ça va nous permettre de mieux comprendre ce que la plupart du temps nous considérons comme un acte de foi à l'égard d'objets qui ne sont pas typiquement de foi. Alors évidemment, ça n'a pas grande importance une fois que vous avez saisi la ratio formalis objecti. Mais tant que vous n'avez pas saisi, vous confondez l'objet matériel et l'objet formel, et alors vous confondez l'extension et la compréhension.